Très bien.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je s'en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du 10 décembre 2015, 10 décembre, 65e journée internationale des droits de l'homme. Oui, on a tendance à l'oublier, hein, parce que les droits de l'homme en ce moment, c'est pas facile. Et alors ce soir, j'ai décidé de faire une infidélité à Laurent, notre cher ami, qui est parti ce soir écouter du métal à Grenoble. Et ce soir, tu vas dire d'abord, chers auditeurs, chères auditrices, vas-y.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir.
Voilà, peut-être aurez-vous reconnu la voix de Fabien, qui anime avec une belle équipe la causerie le dimanche soir. Et Fabien, donc, tu as accepté...
Ouais, gentiment.
De m'aider dans cette infidélité exceptionnelle, il faut le dire. Alors ce soir, on va vous parler entre autres des abstentionnistes, on vous parlera de la vie d'Adèle, on vous parlera de Sanofi, on vous parlera des alcooliers du vin, vous verrez, ils ont une belle campagne d'information. On parlera un petit peu de lutte des classes avec Smart, on parlera de la chasse, parce que vous savez, la chasse, ça tue. Et puis, on verra bien un peu jusqu'où on peut aller, mais tout de suite, moi, j'avais un petit peu envie de revenir sur les élections et sur ces fameux et fameuses abstentionnistes. J'en bafouille, voyez-vous. Alors, parce que on nous dit qu'il y a eu 49,91% d'abstention le 6 décembre dernier. Ça représente un peu plus de 77 000 personnes de moins que les votants. Hein, donc c'est assez proche, hein, il faut quand même s'en souvenir, c'est pas tant que ça, hein, 77 199 personnes précisément. Alors, comme le Front National a réalisé un certain score, hein, dans certaines régions, alors tout de suite, ben, c'est vers ces non-votants que les critiques fusent, hein, puisque les abstentionnistes sont accusés de faire le jeu, hein, du FN, hein, c'est assez classique. Alors les râleurs et les râleuses pensent toujours que les abstentionnistes voteraient comme eux. S'ils allaient voter. C'est un truc qu'on entend souvent, hein, on a pu lire ça, j'imagine, t'as lu ça beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, comme Facebook,
oui.
Hein, où ça a beaucoup circulé. Alors, en l'occurrence, ces râleurs et ces râleuses pensent que ces abstentionnistes iraient voter comme eux, c'est-à-dire contre le FN, contre la droite, contre M. Sarkozy à une certaine époque. C'est un discours, hein, des démocrates de gauche qu'on retrouve souvent.
Mais généralement, plus souvent quand ils prennent une décalotée comme là. En fait.
Ouais, bah ça c'est ça. Alors, pourtant rien ne dit hein, que les abstentionnistes iraient voter comme les votants, enfin différemment, que ça amènerait justement un changement, que ça serait plus fort et qu'il n'y aurait pas le FN. Alors moi, j'ai trouvé aucune étude sérieuse à mon goût pour expliquer ce qu'iraient faire les abstentionnistes. J'ai trouvé des sondages comme celui relayé par un article des décodeurs du Monde.fr qui reprend un sondage de l'Institut IFOP qui avait réalisé un sondage au lendemain des élections européennes de 2014. Alors il y avait un échantillon de 1638 abstentionnistes à qui on avait demandé ce qu'ils voteraient s'ils étaient obligés. Donc déjà il y a une certaine démarche hein, dans un sondage, il faut jamais l'oublier. Alors le résultat indiquait que le vote des abstentionnistes était similaire au vote des votants, oui. Ça changeait à rien. En 2011 ils avaient remis un petit peu la sauce avec un sondage un peu identique, les résultats étaient un peu pareil. Bon, là, le problème, c'est qu'on compare des élections différentes dans des conditions de sondage qui sont pas très scientifiques, hein, c'est pas très sociologique. Si vous avez fait un petit peu de la sociologie, vous savez qu'il y a quand même un peu des règles.
Normalement.
voilà, oui, normalement. Hein, on sait que questionner les gens sur ce que potentiellement ils auraient fait après coup, ça induit un peu des biais, mais bon, c'est vrai que ça donne un peu quand même une idée que, ben, en fait, ça se trouve, ça serait pareil. Et puis surtout, il y a un truc qui apparaît assez clairement, c'est que les abstentionnistes d'un tour sont pas forcément les abstentionnistes du tour d'après. Voilà, puisque là, c'est la grande question, que vont faire les abstentionnistes, en particulier en PACA. Mmh. Hein, bonjour à vous les votants en PACA, vous salue hein, parce que c'est classe. Que vont faire les votants de gauche aussi hein, lors de ce deuxième tour? Donc voilà, les abstentionnistes ils sont accusés, là on leur a jeté la pierre, mais en fait rien ne dit que ça changerait la donne. Et puis on va plutôt accuser les votants. Hein, on va être clair, c'est eux les coupables, c'est eux qui votent FN.
C'est eux qui mettent le bulletin.
Et voilà, même. C'est plutôt eux. Et puis, pour revenir à la région PACA, bon, on a beaucoup entendu hein, le Front Républicain, Monsieur Estrosi, tout ça, tout ça. Bon, on rappellera que Monsieur Estrosi, veuillez m'excuser, c'est du clientélisme à la Godin, hein, c'est exactement le même principe. Hein, il fait semblant d'avoir quelques mesurettes de gauche hein, dans les cantines, les transports, des choses comme ça. Mais bon, on se rappelle quand même que c'est une ville avec des caméras de vidéosurveillance absolument de partout, que c'est l'une des municipalités championnes en termes d'effectifs de police municipale, que M. Estrosi n'aime pas trop la laïcité, par contre il aime beaucoup les valeurs chrétiennes, qu'il aime les crèches par exemple dans les municipalités. Je vous rappelle aussi qu'il est pour la déchéance de nationalité, pour l'incarcération préventive, pour le prélèvement d'ADN à la naissance pour repérer les criminels, qu'il a des arrêtés anti-bivouac, des arrêtés contre la mendicité soi-disant agressive, il y avait l'arrêté couvre-feu aussi avec les mineurs de moins de 13 ans, ça c'était en 2009, et puis la charte des mariages, hein, sans les fameux you-you en 2012, hein, parce que ça l'énervait beaucoup, Monsieur Estrosi. Donc, bah, l'abstention, hein, ça reste une solution dans les cas entre extrême droite et extrême droite. Hein.
C'est clair.
Hein, voilà.
Et je rajoutais juste un truc, quand même, pour les coups des abstentionnistes. Les deux régions où on a le plus voté en France, où l'abstention est la plus faible, c'est la région Nord-Pas-de-Calais et la région ALCA, là, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, ou PACA élargie. Donc, c'est là où le Front National a fait le plus haut score. Donc, il n'y a pas de corrélation directe, a priori.
On notera aussi que dans le quartier de la radio, hein, le score du FN est à peu près de 7%, donc ça va, ça reste assez bas.
Tout hein. est possible.
Après, on rappellera que ça fait aussi partie de ces quartiers où il y a beaucoup de gens qui ne votent pas, pour beaucoup parce que simplement ils n'ont pas le droit d'aller voter. Donc voilà, c'est aussi une population qui n'est pas comptée hein, dans la masse des gens qui n'iraient peut-être pas voter non plus pour le Front National. Alors, on va continuer avec autre chose, même si on va rester aussi à parler un petit peu des fachos, hein, on va dire ça comme ça. On a appris hier que le visa d'exploitation du film La vie d'Adèle d'Abdelita... Ouh là, j'en bafouille. De Monsieur Kechiche, on va dire ouais. Monsieur Kechiche, parce qu'après tout, on n'est pas très fan de Monsieur Kechiche non plus, on va dire. En tant qu'être humain, il n'est pas terrible. Et en tant que réalisateur, il me semble que tu n'es pas fan non plus, Fabien.
Ah non, il n'est pas terrible du tout.
Voilà, bon, donc on va dire Monsieur Kechiche. Allez, c'est parti. Donc le visa d'exploitation du film La vie d'Adèle a été annulé hier par la Cour administrative d'appel de Paris, plus de 2 ans après sa sortie, hein, quand même, donc c'est pas rien. Alors le visa d'exploitation qui comportait une interdiction moins de 12 ans avec avertissement a été été annulée en raison de scènes de sexe réalistes, de nature à heurter la sensibilité du jeune public. Alors, en conséquence, le ministère de la Culture va devoir procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 2 mois. Le ministère de la Culture a déjà fait savoir qu'il avait l'intention d'introduire un recours devant le Conseil d'État. Ça ne lui plaît pas, hein, cette affaire, il faut le dire. Alors, comment, pourquoi nous en sommes arrivés là ? La justice avait été saisie par l'association Promouvoir, qui avait été déboutée en première instance, c'était en septembre 2014, par le tribunal administratif de Paris. Et puis, Promouvoir, c'est du genre un peu à insister, hein, parce que leur truc, quand même, de cette association, nous allons y revenir, c'est quand même la justice. Hein, voilà. Alors, cette association, elle s'est fait remarquer. On s'en souvient, vous vous en souvenez peut-être, toi Fabien, tu t'en souvenais, il y avait eu Love de Gaspard Noé qui s'est récupéré une interdiction aux moins de 18 ans. On pourrait se souvenir du film de Lars von Trier, Nymphomaniac, qui était passé de moins 16 à moins 18. Et puis le film qui a certainement médiatisé Promouvoir, c'était en 2000, et c'est Baise-moi de Virginie Despentes et de Coralie Trinity. Le film au début avait un visa d'exploitation au moins de 16 ans. Le visa d'exploitation avait été annulé par le Conseil d'État, qui jugeait la classification illégale. C'était une affaire dingue, hein, quand même, qu'un film perde son visa d'exploitation. C'était pas arrivé depuis plusieurs décennies. Ça avait été un grand choc, hein, dans la profession, mais pas que dans la profession d'ailleurs. Alors, le Conseil d'État avait par la suite redonné une autorisation sous un classement X, c'est-à-dire comme un film pornographique. Alors, on va pas se mentir, hein. Il y a du cul dans Baise-moi. Je veux dire, il faut pas mentir, ouais. C'est clair.
C'est dans le titre, hein, même, d'ailleurs.
C'est dans le titre. Alors, ce qui s'était passé par la suite, c'était à l'époque Madame Tasca, qui était ministre de la Culture, qui avait finalement donné au film une interdiction au moins de 18 ans. Et c'est à partir de ce film qu'il y a un décret qui date du 12 juillet 2001, qui permet au ministère de la Culture de donner ce moins de 18 ans à la place du classement X. C'est subtil, c'est le cul entre deux chaises, hein, vous m'excuserez pour cette terminologie. Mais voilà, c'est un moyen de protéger finalement la production cinématographique en France. Il faut le dire, hein, que c'est un peu ça, c'est un peu le moyen de contourner clairement la chose et de contourner la justice, hein, tout simplement. Alors, revenons à Promouvoir, qui est devenue célèbre. C'est une association qui a été fondée par monsieur André Bonnet. Je vous invite à relire un article qui est paru sur le site des Inrock, daté d'août 2015, qui un très beau portrait. Hein. Je suis retournée le lire pour me remettre un petit peu dans l'ambiance. Alors, André Bonnet, qui se fait appeler aussi Patrice André, c'est son nom d'écriture dans le cadre de la Manif pour tous, avocat, il a donc lancé une croisade pour la défense des valeurs judéo-chrétiennes contre la violence et le sexe au cinéma. Il est donc sympathisant de la Manif pour tous, proche de l'extrême droite. Hein. Il a milité au Mouvement pour la France de Monsieur De Villiers, puis au Front National, et puis il est parti avec Monsieur Maigret. Et alors, ce que les Inrock nous rappellent, cette affaire que j'avais moi oubliée, c'est que en 2001, Promouvoir s'attaque à Michel Houellebecq et son roman Plateforme. Sauf que le mouvement de Monsieur Maigret l'avait adoré, et en particulier l'avait fait savoir dans sa revue Le Chêne. Donc, il est parti. Et oui, il y a eu quelques soucis.
Dommage.
Et il est coincé, il faut vous le dire, monsieur Bonnet, c'est vraiment, même à droite de la droite de l'extrême droite, il passe pour un tradi, conservateur, tout ce que vous voulez, vous pouvez les mettre, hein, les adjectifs, il les a tous. Un genou, c'est du porno, hein, quand même, il faut le savoir. Il faut se souvenir aussi de son personnage et de ses premières sorties. Moi, je me souvenais de ça. C'était dans Ciel mon mardi, animé par Christophe de Chavannes. C'était en mars 2001. Il était face à la réalisatrice Catherine Breillat et Monsieur Bonnet venait de l'assigner en justice pour avoir mené une campagne en faveur de Baise-moi. Et il avait sorti plein de choses. Et moi, je me suis souvenue surtout de cette phrase que j'ai retrouvée. Il y a un lien manifeste, une corrélation statistique entre homosexualité et pédophilie. Ça, c'est aussi son cheval de bataille. Hein.
Ah oui, bah oui. Enfin, avec la Manif pour tous, c'est celui qui avait été le plus loin dans les attaques vis-à-vis des associations qui faisaient de la prévention à l'école, en disant qu'en fait, elles introduisaient dans l'école la pédophilie. Et il le disait comme ça, hein, donc voilà.
Alors aujourd'hui, Monsieur Bonnet souhaite s'attaquer au porno sur Internet. Alors vu sa conception du porno, je pense qu'on peut s'attendre quand même au pire. Alors il y a eu des réactions, hein, en particulier celle de la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs, l'ARP, qui a communiqué, c'était hier, avec un communiqué dont le titre est « Il est loin, le temps des lumières ». La première phrase, c'est « Les cinéastes de l'ARP apprennent avec stupeur la décision de la Cour administrative de Paris de donner raison aux arguments honteux d'une association résolument obscurantiste. À croire que l'atteinte aux bonnes mœurs a fait son retour dans notre société contemporaine. » C'était la deuxième phrase. Ils sont énervés. On les comprend. Alors, les fachos, en ce moment, il y en a plein de partout. Non, mais il y en a toujours eu plein de partout. Mais c'est vrai qu'ils sont plus gênés d'être fachos.
Ouais, on les entend bien en ce moment, quoi.
Et alors, il y en a un qu'on entend bien, c'est Monsieur Donald Trump. Oui, je sais, on parle un peu souvent de Monsieur Donald Trump, mais à nos yeux, c'est vrai qu'il symbolise un petit peu tout ce qu'on pourrait retrouver dans la connerie, la bêtise, le fascisme, la haine, toutes ces choses-là. Et donc, après sa sortie sur le fait qu'il fallait barrer l'entrée des musulmans aux États-Unis, il a dû annuler son voyage en Israël. Ah bah oui, parce que ça a fait quand même finalement vilain en Israël, dans les médias. Monsieur Netanyahou devait recevoir Monsieur Trump le 28 décembre prochain. Alors pour finalement se dégager un peu de tout ça, le gouvernement israélien dit « Non mais c'était prévu bien avant cette sortie ». Oui, mais enfin, ça fait bien longtemps maintenant que Monsieur Trump nous sort des horreurs racistes, des propos discriminants sur les hommes, les femmes, les homos. Enfin, ça fait quand même un petit peu longtemps. Donc que le gouvernement israélien se rende compte d'un seul coup qu'ils invitent M. Trump raciste, qui pose problème, là, bah, c'est un peu surprenant. Alors, bon, évidemment, ça pose un peu de soucis, parce qu'en ce moment, en Israël, ça se passe pas très très bien, les attaques continuent. Le 9 décembre 1987 débutait la première intifada. On peut pas dire que depuis les choses se soient améliorées, hein. C'est franchement pas le cas. Je vous rappelle, hein, comment ça a commencé. Le 8 décembre 87, un camion israélien écrase une voiture. Quatre Palestiniens trouvent la mort. Là-dessus, tout le monde a l'air de penser que c'est juste un accident côté israélien. Le lendemain, jour des funérailles, ça s'emballe. La foule attaque à coups de pierre un lieu tenu par les militaires. Et à partir de là, cette intifada va commencer. Les pierres vont fuser jusqu'aux accords d'Oslo en 93. Alors ça s'était calmé, hein, au début des années 90. Mais voilà, ça va toujours pas mieux là-bas, dans ce coin du monde. Alors je vais revenir à Monsieur Trump, hein, parce que évidemment, dans le cadre de sa campagne, il cherche à se rapprocher d'Israël. C'est aussi important. Il tape de partout, hein, Monsieur Trump, partout il pourrait avoir, lui aussi, hein, le clientélisme, il connaît bien. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il a expliqué. Hein, parce que il se voit déjà chef. J'ai décidé de reporter mon voyage en Israël et de programmer ma rencontre avec Monsieur Netanyahou à une date ultérieure après que je serai devenu président des États-Unis. Il s'y voit déjà.
Ah, il doute de rien, Trump.
Hein. Ah, il doute de rien, il franchement, a pas peur. Il s'y croit. Bon, il faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a de la résistance, c'est-à-dire qu'effectivement, même à la droite de la droite, Monsieur Trump fait peur quand même, il faut pas l'oublier. Et il y a une résistance, en particulier dans les universités, de gens qui ne veulent pas de ce facho à la tête des États-Unis d'Amérique et qui ne veulent même pas qu'il puisse gagner ses primaires républicaines. Donc, il y a une réaction, il y a une résistance. On l'entend pas trop dans les médias français, cette résistance, pourtant elle existe, hein, quand même, il faut pas l'oublier.
Oui, il y a des universités où il peut même pas faire de meeting, d'ailleurs, où il bloque les universités pour pas qu'ils rentrent. Et je voulais juste dire que Trump est quand même un opportuniste de première, et ça on le sait. C'est qu'il y a 3 mois en arrière, ses cibles, c'était les Mexicains. Et comme il s'est rendu compte que la proportion de personnes d'origine mexicaine aux États-Unis était très élevée et que faisait partie potentiellement de ses électeurs, maintenant c'est les musulmans. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, au petit bonheur, la chance, comme là où il faut tirer pour qu'il puisse avoir, lui, la chance d'être.
Bah, de toute façon, il a pas de programme, alors si tu veux. Et ça m'a fait penser à un papier que j'ai lu aujourd'hui sur le site challenge.fr. Alors Challenge, vous savez, moi j'aime bien aller les lire parce que bon, c'est le libéralisme. Hein. Mais ouais. Ils sont plutôt de gauche, ils détestent Monsieur Sarkozy, donc ça donne souvent des articles assez croustillants, je dois le dire. Quand on va être au courant aussi de certaines luttes sociales, ben, ils les relaient,
ouais, hein,
il faut le dire. Et il y a Thierry Fabre qui a écrit un papier qui s'appelle « Pourquoi le programme économique du Front National est archi nul. J'ai trouvé ce titre magnifique. Je vous passe le texte qui est à peu près dans la même mesure. Mais voilà, Monsieur Trump n'a pas non plus c'est de pareil. Programme économique. Il a pas de programme tout court. Donc, bah, il s'attaque dans la violence et la virulence.
Comme toujours, quand on a pas de programme.
Alors. On va attaquer une page profiteur. Hein, vous savez, chez nous, les profiteurs, c'est le grand capital.
Eh oui, eh ben, tiens, je vais prendre au vol tout ça. Et ben, on va commencer par une toute petite PME du médicament qui s'appelle Sanofi.
Ouais, hein, PME. Donc, voilà. Bah oui, on leur souhaite bonne chance quand même en tant que start-up aussi.
Bah oui, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'ils se présentent en ce moment dans les médias. En fait, il faut rappeler quand même ce qu'est Sanofi. Sanofi, c'est 110 000 salariés dans le monde à l'heure actuelle. Mais c'est surtout 40% des vaccins vendus dans le monde et c'est à peu près la troisième multinationale du médicament dans le monde avec entre, en gros, 4,4 et 7,8 milliards de dollars de bénéfices. Voilà, c'est pas du tout une PME, c'est donc une énorme entreprise. Sauf que, depuis quelques jours, on voit arriver dans la presse que chez Sanofi, les salariés seraient des sacrés feignants, car ils ne travaillent pas assez.
Et que vous n'êtes pas trop payé aussi à Sanofi?
Ah, trop
moi,
payé.
Je pense que c'est ce que j'ai lu, qu'ils étaient trop payés.
Voilà,
aussi,
trop payé et feignant. En général, ça va de pair. Alors, ils ont sorti des chiffres assez hallucinants, où ils sortent, par exemple, que la moyenne de travail est 33 heures. Alors, comment ils arrivent à ça? Ils font un truc qui est totalement illégal. Ils prennent les temps partiels, les personnes qui sont en maladie, les personnes qui sont en congé, et ils comptent ça comme des personnes pas là. Donc, c'est comme ça que vous arrivez à calculer 33 heures. C'est facile, hein, voilà. Mais par contre, ils vous donnent des chiffres en face qui se placent aux États-Unis ou au Japon, où là, par contre, eh ben, on enlève les gens qui sont malades du calcul et on vous dit ils travaillent plus que vous. Donc la supercherie a été un peu éventée, mais ça sert à dire qu'il faut faire des accords dits de compétitivité. Ça doit vous dire quelque chose. Ça, c'est un petit gars qui s'appelle Macron qui a inventé le concept, et c'est Reb Samen qui a fait une belle loi pour les accords de compétitivité. Alors, ça consiste en quoi, un accord de compétitivité? C'est de demander aux salariés quelques petits sacrifices pour que l'entreprise puisse en faire encore plus des bénéfices. Voilà, c'est exactement ça, et très clairement, c'est ce qu'aujourd'hui on a au sein de Sanofi, dans deux branches de Sanofi en particulier, les vaccins, qui sont le premier employeur de la région Rhône-Alpes, je vous le rappelle, et on a dans une autre branche qui est SWI, qui est en fait la branche, on va dire, chimie lourde de Sanofi, et distribution. Voilà, c'est les deux branches qui sont aujourd'hui touchées. Alors, ça consiste en quoi? C'est vous prenez les accords de temps de travail des gens, vous prenez tous les accords, hein, pas que le temps de travail, alors tous les accords, et puis vous les dénoncez tous, la direction, et puis vous dites aux gens, bah voilà, aux salariés, hein, vous leur dites, maintenant il faut qu'on négocie, enfin, il faut que vos représentants négocient, se mettent autour de la table, et c'est pas compliqué, si on n'a pas d'accord d'ici juin 2016, il y aura plus d'investissement en France. Voilà. Ça s'appelle un chantage, hein, ni plus ni moins. Sauf que la direction, elle s'est un peu fait prendre les doigts dans le pot de confiture parce que c'est sorti dans la presse et que du coup, aujourd'hui, la direction de Sanofi, elle rétropédale en disant « Oui, on fera quand même quelques investissements, ne serait-ce que ceux qui sont obligatoires. » Je vous rappelle qu'on parle d'une industrie du médicament et que donc, obligatoirement, il y a des investissements chaque année parce que sinon, bah, au bout de la chaîne, vous avez des gens qui peuvent mourir tout simplement parce que le médicament est mal fait. Donc évidemment, ils veulent pas en arriver là, donc ils veulent faire l'investissement minimal. Mais ce dont ils parlent, c'est d'amener des nouvelles molécules ou des nouveaux vaccins sur le territoire français. Parce que là, on joue beaucoup la carte du patriotisme économique. Alors, faut rappeler que Sanofi n'est plus du tout une entreprise française depuis bien longtemps, vu que ses capitaux ne sont pas détenus en France. C'est une multinationale, et comme toutes les multinationales, les capitaux sont détenus un peu à droite à gauche par un peu tout le monde. Et mais elle aime bien ramener le côté vive la France. Surtout en ce moment, elle se base beaucoup, enfin la direction se base beaucoup sur le climat actuel pour dire rendez-vous compte, on pourrait quand même faire un grand fleuron de l'industrie pharmaceutique, qu'elle est déjà, hein, rappelons-le, mais il faudrait aller encore plus loin. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on a un nouveau pacte d'actionnaires chez Sanofi et que ce nouveau pacte d'actionnaires demande que chaque année, les actions Sanofi leur apportent un bénéfice net par action de plus 17%. C'est-à-dire dans une période où on vous dit que c'est l'inflation, voire presque comment on dit, quand c'est pas l'inflation, ça descend. Si c'est ça, c'est l'inflation, je sais plus. Bref, excusez-moi l'économie aujourd'hui. Bref, ça descend un peu partout. Bah, les actionnaires de Sanofi, ils voudraient que ça monte de 17%. C'est en gros, vous mettez 1 euro et vous récupérez 1,17 € à la fin de l'année et tous les ans, vous récupérez 17% comme ça de ce qui reste dans la gamelle. C'est juste énorme, hein, quand on réfléchit.
Ça veut dire sans rien faire.
Sans rien faire, hein, ouais, parce que
c'est le principe de l'actionnaire.
Hein. C'est le principe de l'actionnaire. Il achète une action et lui, il fixe le cap de dire il faut que cette action me rapporte 17%. Et pour arriver à ça, on va pressurer les salariés. Il faut être très clair, ça touche les salariés français, mais ça va toucher, et on le sait, dans une deuxième vague, les salariés américains. Sauf que là-bas, c'est la campagne en ce moment, et que bah du coup, Sanofi ne veut pas se mettre mal avec les futurs présidents ou présidentiables. Donc, ça attendra à la fin de la campagne des primaires américaines pour les Américains, et que ça touchera dans un troisième temps, le Japon, qui est aujourd'hui une des grandes plateformes de Sanofi, pour une raison simple, c'est qu'en fait, après Fukushima, Sanofi avait fait un petit peu l'entreprise très gentille en donnant des médicaments pour les gens qui avaient été irradiés, et que, bon, ils ont une bonne image, donc ils veulent pas la gâcher tout de suite, hein. On va être très clair, c'est que pour ça. Mais aujourd'hui, ça tombe sur les salariés français. Donc le deal est simple, on demande aux salariés des vaccins, hein, pour ceux qui, on va parler de la région lyonnaise, et de Merial, qui est une société qui fait de l'animal, de travailler 9 jours gratuitement par an. Voilà, pour être très clair.
Moi, je trouve que c'est normal.
Bah oui, parce qu'il faut, hein, faut y aller. C'est pour la compétitivité de l'entreprise. Déconnez
pas.
Et pour la France, voilà.
Surtout pour la France, je te le rappelle.
Donc, on va juste quand même faire le calcul. Si vous appliquez ça, ne serait-ce que sur les salariés en France, donc c'est 24 000 salariés en France aujourd'hui, 24 000 CDI, ça veut dire que vous avez 300 CDI en moins embauchés directement, parce que vous avez 9 jours de plus par CDI présent. Et ça représente quand même plus de 50 000 heures de travail gratuit pour donner aux actionnaires de Sanofi, pour une entreprise qui, je le rappelle, va faire cette année 6 milliards de bénéfices. Donc voilà, c'est un exemple typique de ce à quoi sert la loi Macron, ce à quoi sert la loi Rebsamen. Et on voit qu'en face, on n'a pas grand-chose, malheureusement, comme réaction. Parce que on est dans une période très particulière quand même, qu'on le veuille ou non. Et puis qu'en plus, ça tombe à la période de Noël, parce que ça c'est quand même bien fait, et que c'est accéléré par la fameuse décret Macron qui permet de renégocier dans les 15 jours qui suivent une dénonciation. Je vous rappelle qu'avant, il fallait 3 mois. Donc ça laisse très peu de temps aux salariés pour réagir et s'emparer des luttes, parce que très clairement, ça va très très vite. Il y a 1000 informations, et je vous rappelle, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 47 accords qui ont été dénoncés. Donc vous imaginez quand d'un seul coup, vous avez une information qui arrive tous les jours sur un accord différent. C'est quasiment impossible à suivre, même pour des syndicalistes, et encore plus pour des salariés qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre d'informations qui arrivent en ce qu'on appelle en canaux, c'est-à-dire ça représente entre 13 et 14 informations jour, c'est-à-dire des mails, des trucs donnés par les managers. Donc c'est juste pour les gens extrêmement angoissant, et du coup ça fait une espèce d'effet de choc très très violent, quoi. Mais c'était pour prouver que ça continue dans les industries, y compris dans les industries qui vont bien, et qu'on pressure tant qu'on peut, quoi.
Mais écoute, moi, je ne sais pas depuis exactement quand je fais ce Canul Info du jeudi. On va peut-être dire 7-8 ans maintenant, peut-être 9. Je crois que depuis le départ, nous parlons des problèmes des salariés et des syndicalistes à Sanofi pour une entreprise qui va bien. C'est-à-dire que c'est ça qui est dingue. Et je vous rappelle, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais moi j'insiste toujours, on parle en milliards.
Ah oui, tout à fait.
On parle en milliards, donc on n'est pas sur des petites sommes de... L'entreprise, elle a fait un petit peu des sous, elle a fait un peu des bénéfices. Non, on parle de milliards.
Bah, pour donner un chiffre qui parle, le chiffre d'affaires de Sanofi, c'est 39 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est deux fois le PIB du Burkina Faso.
Voilà, non mais
pour se rendre compte de ce que ça représente. Quoi.
C'est des sommes qui sont énormes, et ça fait des années que pourtant les salariés
ils dégustent.
Hein, ouais. Ouais, non, c'est clair. Hein. Moi, je pense qu'on peut tout de suite enchaîner avec Smart, parce qu'on est un peu dans le même ordre d'idées. Smart, vous le savez, c'est une voiture. Un machin avec 4 roues et un moteur qui pollue. Et il y a une usine en Moselle, à Ambach. Je ne suis pas sûre de bien prononcer le nom à chaque fois. C'est une usine où il y a à peu près 800 employés. Et alors, ça fait un moment. C'est vrai qu'on ne vous en a pas parlé dans ce Canul Info, mais moi je suis cette affaire parce que je la trouve assez horrible de mon côté. Et je me suis dit, ça y est, là il est temps de vous en causer. Alors, on va peut-être un petit peu juste rappeler ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas, c'est que c'est simple. C'est que la direction propose aux salariés de travailler 39 heures, payer 37. Il y a d'autres choses, hein, mais ça c'est quand même l'essentiel. C'est simple, hein, c'est simple. Alors, le problème de la direction, c'est qu'elle se retrouvait avec la CGT et la CFDT qui ont fait barrage, qui se sont opposés à ce pacte, je suis en train de chercher, pacte 2020, excusez-moi, pacte 2020, je suis en train de chercher le nom, c'est toujours magnifique le nom.
Ça a toujours des noms...
Poétiques.
Ouais, poétiques, puis à consonance un peu NASA, vous savez, comme quand on envoie une fusée, c'est un peu dans l'idée.
Donc 2020, hein. Voilà, il y a déjà une date butoir, hein, c'est ça qui est bien. Donc la CGT, la CFDT ayant fait valoir leur droit d'opposition, la direction a trouvé une superbe solution. puisque le 11 septembre, il y a eu un petit truc à l'intérieur, une espèce de petite procédure pour savoir ce que les gens en pensaient, hein, une espèce de petit référendum, hein, mais tout ça n'était pas officiel, hein, c'était consultatif, hein, tout simplement. Alors, les résultats ont donné 56% de salariés qui ont voté pour ce pacte 2020. Ce qui est intéressant, alors évidemment la direction était toute heureuse.
Bah, elle est aux anges dans ces
cas. Aux anges, 56%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les chiffres à l'arrière, puisque 39% des ouvriers ont voté contre, ont voté pour, excusez-moi, donc c'est-à-dire que beaucoup ont voté contre, se sont opposés à ce pacte 2020. Par contre, chez les cadres employés, techniciens, agents de maîtrise, on passe à 74%. Là, il y a un rapport lutte des classes. Hein, c'est...
Ah, il est évident, là.
Il est évident, évident, évident. C'est pour ça que moi, j'ai été surprise de retrouver la CFDT dans ce truc-là. Mais comme quoi, hein, des fois, la CFDT, je vous rappelle que c'est les syndicats autonomes aussi à la CFDT. Donc, ben, parfois, il y a des petites choses comme ça qui sont plutôt bonnes, hein, de la part de la CFDT. C'est rare, donc on peut le souligner. Parti sur cette belle réussite, la direction insiste, ne se laisse pas faire et a donc décidé de poser la question individuellement et tout à fait légalement aux salariés, hein, puisque depuis hier, ils ont tous et toutes reçu un avenant individuel à leur contrat de travail, et donc qui a été remis, hein, donc en main propre, ils sont très fiers de le dire, hein, la direction en main propre, et donc ils doivent valider ou non ce pacte 2020. Voilà, donc c'est un moyen de détourner, hein, le collectif pour essayer d'aller à l'individu. Alors évidemment, l'individu qui s'en sort pas trop mal avec son salaire en particulier, parce que c'est en général à ça que les gens pensent, hein, bah, il est prêt, hein, à faire un truc comme ça, surtout chez les cadres où finalement les heures, bah, des fois on se fait pomper parce qu'on en fait beaucoup et qu'on s'est déjà fait avoir. Hein.
Oui, mais généralement ils sont forfait jour, c'est-à-dire c'est un truc dégueulasse, hein, le forfait jour.
Ah ouais.
C'est un truc qu'on vous dit, vous travaillez 280 jours dans l'année et vous fassiez 5 heures ou 20 heures, c'est pareil. Mais vous faites, vous voulez faire 280 jours. Donc vous voyez, c'est, ça enlève immédiatement toute la notion, même de vie de famille derrière, en fait. Voilà.
Ouais, c'est, voilà, donc, mais on sait que, voilà, il y a le salaire et que les gens sont prêts finalement à sacrifier certaines choses. À sacrifier toute une histoire aussi, et puis toute une lutte, hein, qu'il y a pu y avoir derrière. Pour d'autres, ben, a priori, c'est pas le cas, hein. Ils sont encore dans la lutte et dans la résistance, et par principe, ils disent non, et pourtant, c'est pas forcément ceux et celles qui ont les plus gros salaires, et les meilleures conditions aussi de travail. Donc, ils vont jusqu'au 18 décembre, hein, pour se prononcer, ces heureux et heureuses salariés, quand même, hein, de cette usine, Smart. La direction espère le retour aux 39 heures payées 37 à partir du 4 janvier prochain. Voilà. Donc, ils sont tout heureux. Eux, ils pensent que ça passe, c'est tout bon, et que la majorité des gens vont signer.
Bah, de toute façon, comme ils l'ont fait sous la forme d'un avenant au contrat de travail, il faut être très clair, si vous ne signez pas un avenant au contrat de travail, potentiellement vous pouvez être licencié pour faute.
Ah oui, mais donc, là ils s'attaquent, ils font peur, c'est le chantage aussi.
Donc voilà, c'est un énorme chantage, c'est-à-dire que les gens ils se disent, ah, on nous interroge, on n'est pas obligé, mais en même temps, il suffit d'aller taper même sur internet en disant, avenant à un contrat de travail non signé, vous verrez que, voilà, et du coup ça met une pression énorme aux gens, et ils se doutent bien que les gens vont majoritairement signer, parce que même si on n'est pas d'accord, on a aussi besoin souvent de son boulot, quoi.
Et alors, ce qui est le chantage aussi sur cette usine, c'est qu'il parle de délocalisation, c'est-à-dire s'il n'y a pas 75% des gens qui ont signé ces avenants, l'usine sera délocalisée en Slovénie.
Ah oui, oui, comme ça ils la prennent en une nuit, ils la déplacent. Non, mais enfin, en plus c'est.
Mais c'est dit, hein, c'est dit sans gêne.
C'est dit sans gêne, mais c'est surtout qu'on voit bien qu'il y a une logique derrière, de toute façon, d'aller un jour ou l'autre, malheureusement, délocaliser, parce qu'on monte pas une usine pour monter des voitures en trois jours. Voilà, donc c'est bien qu'à un moment donné, ils ont déjà le lieu, les machines.
Ah, mais l'usine existe déjà, elle produit une autre variété de Smart, donc d'accord. Simplement, ils veulent continuer.
Ah, c'est dingue.
Au fond, ils vont y aller en Slovénie un jour. Ouais, point final.
C'est ça.
C'est une usine en Moselle, ils veulent s'en débarrasser.
Mais ce qu'on voit chez Sanofi ou ce qu'on voit chez Smart, de toute façon, ça doit nous rappeler fortement ce qui s'est passé chez Bosch, Vénissieux, où on a poussé les gens à travailler 40 heures, payer 35, en disant comme ça, on délocalisera pas, machin. Et en fait, en réalité, on s'est rendu compte après coup, enfin, surtout les salariés, malheureusement, s'en sont rendu compte après coup, que le gain qui avait été fait a servi, en fait, à payer la délocalisation pour que ça ne coûte rien à Bosch. Et Bosch a fini par délocaliser 2 ans après et fermer l'usine à Vénissieux. C'est ça, en fait. C'est qu'en fait, c'est des gains immédiats que font les directions, et que derrière, en fait, elles n'ont aucune intention, elles n'ont pas de plan à 5 ans, à 10 ans, c'est pas vrai, c'est que du court-termisme.
Bah, ça, c'est aussi là du court terme, ce que je vais vous raconter tout de suite, on va revenir sur la chimie, si vous voulez bien. C'est une fusion en vue entre Dawn Chemical et DuPont. de grosses multinationales de la chimie. Alors, ils veulent fusionner pour 120 milliards de dollars. On est encore dans des chiffres énormes. Alors, ce serait des activités, hein. Il faut rappeler, hein, ça va du pesticide désherbant aux OGM, maïs et soja. C'est les isolants thermiques, c'est le Kevlar aussi, ouais, même. Tout à fait, hein, ouais. Faut se souvenir de tout ça. L'idée, a priori, d'après les experts que j'ai pu lire, c'est de s'unir pour se redésunir, c'est-à-dire que l'idée, c'est de s'unir, de faire un mastodonte, et ensuite de rediviser avec des nouvelles filiales en trois activités, ce serait l'agriculture, les produits de chimie, et puis la chimie traditionnelle, les produits de chimie spécialisés, et la chimie traditionnelle, donc d'avoir ensuite de retour trois secteurs. Donc là, quand vous êtes salarié là-dedans, vous savez jamais à qui vous appartenez, hein, je vous le dis, vous savez même plus à un moment quel est votre titre, quel est votre service.
Et quel est votre chef ? Vous travaillez, en fait, hein, c'est voilà. Un vrai bordel. Dans cette
la rigueur, le matin, vous arrivez, vous avez encore une chaise et un bureau, mais c'est à peu près tout, hein. C'est pas toujours facile. Alors bon, il va falloir que ça soit un mariage qui soit validé, hein, par les autorités de la concurrence aux États-Unis d'Amérique. Mais d'après les marchés, ça va le faire. À Wall Street, mardi, ça a bondi à la bourse.
Hein. Ils sont contents, a priori.
Ah ouais, ouais, ouais. Hein, tout le monde y croit que ça va, ça fait saliver. Hein, déjà, on y croit. Bon, faut dire que ça ferait un chiffre d'affaires annuel extrêmement important. On parle de 90 milliards de dollars. Alors, c'est pas la première fusion, hein, dans le secteur. C'est dans le secteur, il y a beaucoup de consolidation ces derniers temps. Tout à l'heure, en préparant cette émission, tu me parlais de Pfizer et d'Allergan. Mmh. C'est exactement ça. C'est l'année dernière, il y avait une fusion à 160 milliards de dollars. Pardon, ces chiffres, ça me fait toujours. Voilà. C'était la deuxième plus importante transaction, hein, mais tout le monde, hein, Bayer, Monsanto, tout le monde est en train de réfléchir à ces consolidations, à la manière dont ces multinationales se restructurent. Et comment elles baladent leurs salariés, bien évidemment.
Puis ça a un côté pratique, c'est qu'au final, quand vous êtes touché par une affaire un peu pas terrible, comme c'est le cas de Dow Chemical sur plusieurs coins de la planète, où ils sont quand même accusés d'avoir énormément pollué, ou alors d'avoir balancé des OGM qui ont stérilisé complètement. C'est notamment en Inde avec les paysans indiens qui se retrouvent à se suicider parce qu'ils ne peuvent plus acheter leurs graines. Ouais. Bah, du coup, vous fusionnez, vous changez de nom, vous créez des filiales, et d'un seul coup, plus personne ne se rappelle de qui était Dawn Chemical.
Ouais, puis tout devient compliqué pour les procédures. Voilà. On vire les gens, on les change, on les déplace. Donc il n'y a même plus un être humain à attaquer avec un nom et un titre.
Et vous n'existez plus, en fait, légalement. C'est ça. Une fois que vous avez fusionné, l'ancienne boîte n'existe plus légalement.
Et puis là, c'est aussi des consolidations qui se font dans le court terme. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, l'idée, c'est de répondre aux actionnaires qui ne sont pas contents parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de retour sur investissement assez rapide. C'est exactement comme ça. Hein. C'est l'idée que ce n'est pas assez rapide, ça ne va pas assez vite. Ce n'est pas tant qu'il n'y en a pas assez du pognon.
Ça va pas assez vite.
C'est que ça ne va pas assez vite. Hein. Et donc là, toutes ces consolidations se font dans l'urgence, dans le vite fait. Donc franchement, dans 10 ans, je me demande bien comment ça va se passer, puisqu'ils ont déjà dans leurs prévisions l'idée en plus de restructurer, déstructurer. Enfin, c'est une vraie catastrophe, tout ça.
C'est une catastrophe à tous les niveaux.
Très très vite, juste pour vous dire que l'autorité de la concurrence en France a validé aujourd'hui le rachat de Quick par Burger King. On vous en avait parlé, ça y est, c'est fait. Alors, il y a juste un endroit où ça posait un problème de concurrence. C'est Ajaccio, en Corse. Donc, Burger King va résilier là-bas ses franchises pour pouvoir, à côté, papillonner sur l'Asie de la France. Voilà, donc sachez, quand vous allez chez Quick, vous allez chez Burger King, tout ça, c'est tout pareil. Consolidation, fusion, achat, ça, tous les secteurs, je vous dis, du burger à la chimie. Eh ben, on va s'attaquer à un autre domaine maintenant. On va rester dans la bouffe, plus précisément dans le vin. Vous savez, chez les alcooliers, il y a du lobby.
Ah bon ?
Oh, oui. Oh, oui, mes amis. Que dis-je du lobby, de la puissance, de la propagande ? Le slogan de cette belle campagne du vin. Le vin, je l'aime, je le respecte. Et là, tu jouis, mon ami. Oh oui, tu jouis, tu aimes le vin, tu n'en peux plus avec cette belle campagne d'information. Oui, c'est pas du tout lié au produit. C'est pour vous informer sur le vin. Vous devez le respecter quand vous le buvez. Hein, on vous dit évidemment jamais dans toute cette campagne que vous n'allez pas le boire. Alors dans cette campagne, on a des affiches déjà, de belles affiches. Hein. Tu les as vues, Fab.
Elles sont magnifiques.
Magnifiques. Alors il faut savoir que moi d'abord, j'ai été sur le site internet de Vin et Société que vous pouvez visiter. Il est beau, il est neuf, il est propre, il sent. Enfin bon,
ils sont la propagande.
Voilà, ils sont la propagande. J'ai donc été voir cette campagne d'information nationale grand public sur les repères de consommation. et qui se base sur les chiffres de l'Autorité nationale de la santé, vous savez, pour nous aider à nous repérer dans notre consommation d'alcool avec l'histoire de verre. Bon, moi, j'ai jamais bien compris hein, combien il fallait que j'en boive, en vrai. Je vous le dis. J'essaye de comprendre. Des fois, c'est pas très clair. Bon, on est très clair. Hein, maintenant, on sait hein, tous et toutes que ben, une surconsommation régulière, c'est pas bon. Qu'une surconsommation, même en une soirée, c'est pas très bon non plus. Voilà, on sait tout ça. Donc, le problème des alcooliers, c'est qu'il faut qu'ils arrivent un peu à répondre aussi à ces messages qu'on nous envoie sur notre santé. Hein, et puis, sur les petits problèmes que ça peut créer dû à la violence, au suicide, on sait que plein de choses sont aussi liées à l'alcool, donc ils se battent un petit peu contre ça. Donc ils ont lancé cette grande campagne avec de belles affiches. Et alors, moi d'abord ces affiches, j'en avais vu une comme ça, hein, passer dans la presse, puisque c'est une campagne qui a commencé dimanche, et je suis donc allée sur leur site internet chercher les autres affiches que j'ai téléchargées. Comment j'ai rigolé. Déjà j'ai rigolé puisque il y a quatre affiches, vin blanc, vin rouge, vin rosé et vin effervescent. Ils ont pas fait les choses à moitié quand même pour nous donner envie de boire, pardon, pour nous informer sur l'alcool. Et alors chaque boisson est mise en scène dans un univers différent. Hein. Vous avez donc une couleur, vous voyez, qui s'adapte un petit peu à l'idée que vous pouvez vous faire de boire plutôt du vin blanc ou plutôt du vin rouge. Et alors on voit surtout le vert, hein, qui est bien plein. On voit surtout les deux petits bonhommes qui sont faits des petits grains de raisin sur pâte. Ça me fait penser à ces petits bonbons dans lesquels il y a du chocolat ou parfois des cacahuètes enrobées de couleurs qu'on trouve dans des paquets jaunes. Voilà, pour vous dire, c'est un côté plutôt rigolo.
Oui, c'est ludique.
C'est ludique. Il y a un slogan, aimer le vin, c'est aussi avoir un grain de raisin. Oui, alors au-delà du jeu de mots, vous aurez quand même remarqué qu'on nous parle de raisin en nous associant ça à l'alcool. Ils arrivent à détourner quand même les messages de santé pour les récupérer quand même dans ce qui est de la publicité pour boire, hein. Boire bien, par contre, il paraît. C'est pour nous apprendre à boire. Par contre, les informations santé et de consommation, elles sont en bas, en tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Il faut un peu sortir les loupes.
C'est à peu près un dixième de l'affiche, quoi, je dirais.
Voilà. Ah oui, ah bah oui, ouais. Bah oui, ah bah oui. Non, c'est oui.
Par rapport à l'affiche,
c'est ça. C'est ouais. Minuscule. Et puis alors en bas, il y a un hashtag. Hashtag vin domptable. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus rire, je crois, quand même. Ils ont été jusque-là, c'est-à-dire qu'on pouvait donc dompter notre consommation de vin rouge ou de vin blanc ou de vin effervescent ou de vin rosé, excusez-moi, j'avais oublié le dernier. Alors, bon, ils se foutent de nous, hein. Ils nous prennent pour des cruches, hein. Ouais, sans jeu de mots non plus. Faut que j'arrive avec mes jeux de mots, parce qu'en plus, je les prépare pas. C'est ça qui est horrible, c'est que je voulais sortir comme ça. Et alors, moi, je suis allée après sur la partie qu'est-ce qu'une consommation responsable? Non, parce qu'ils insistent, hein, quand même, dans ce site internet vin-et-société.fr. La consommation responsable, nous expliquons, c'est une question d'équilibre entre connaissance, plaisir, respect et contrôle pour soi, pour sa santé et pour les autres.
C'est beau. Hein.
Découvrir le vin dans toute sa diversité, savoir le goûter, l'apprécier et le boire, cela s'apprend et se partage. Voilà. Et donc là, c'est ça la consommation responsable. Moi, là, j'ai plutôt entendu un poème sur la valeur gustative du vin et sur le plaisir qu'on a à le consommer. Hein. Mais voilà, voilà, voilà. Enfin bon, ils nous font bien marrer, encore une fois, les alcooliers avec une nouvelle campagne. Comme ils arrivent plus bien à simplement nous vendre du vin avec des publicités dites classique dans certains repères, ben ils trouvent des moyens pour nous répondre à ça et ça passe par ces fausses campagnes d'information. Alors il faut savoir que la Haute Autorité nationale pour la santé a réagi assez vivement et comment dire, c'est plutôt assez virulent. Je suis pas très très content parce qu'ils se sentent un petit peu utilisés quand même dans l'affaire par les alcooliers qui combattent, hein, il faut le dire. Voilà, c'est aussi un moyen de mentir sur la réalité de ce que peut faire l'alcool, de aussi mélanger un petit peu tous les concepts. Et puis nous inciter tout simplement à aller consommer. Hein. Alors nous, c'est pas qu'on veut pas aller consommer, c'est juste que c'est la méthode, elle est quand même assez pourrie. Et on se fiche vraiment de nous, quoi, quand même.
Bah, c'est clair.
Je voulais vous le dire.
Mais pour se remettre de tout ça, on pourrait peut-être aller se balader, parce qu'il paraît que c'est bien, ouais. C'est bien de se promener, ça fait du bien, ça aère les poumons.
Il y a longtemps qu'on vous a pas parlé dans ce qu'est l'info de la chasse. Non, parce que merde, la chasse, elle continue à tuer, quoi. Ouais. Samedi, il y a un homme qui s'est pris une balle dans la tête par un chasseur. C'était dans le massif du Semnoz, hein, c'est dans le parc naturel régional des Bauges. Il est décédé sur place. L'homme faisait du trail avec sa femme, hein, il se baladait. Le chasseur était, lui, âgé de 19 ans. Il était dans un groupe qui faisait une battue au sanglier. Hein. Mais il faut savoir qu'en octobre dernier, il y a déjà un étudiant, hein, dans le massif de Beldon vers Grenoble qui est mort, lui aussi, s'il se baladait. Voilà, c'est dans la région, hein, tout ça. Je vous ai pas allé vous chercher ailleurs. Il y a des sites internet qui sont spécialisés contre la chasse et qui prennent acte de tous les accidents et de tous les morts dus à la chasse. Alors il y a des associations de montagnards en Isère qui ont envoyé un courrier au préfet en octobre dernier. Elle dénonce le monde politique de droite et de gauche qui n'a cessé à des vues électoralistes de déréglementer tout ce qui a trait à ce loisir. Et il s'en porte en particulier contre monsieur Laurent Wauquiez. Vous savez,
il n'est pas candidat, un truc comme ça.
Si, Auvergne-Rhône-Alpes, comme ça s'appelle maintenant notre région. Alors il est visé, hein, puisque alors c'est eux qui racontent hein, toutes ces associations de montagnards qui se sont rassemblées et constituées en groupe. Donc ils ont récupéré une lettre adressée aux chasseurs dans laquelle Monsieur Wauquiez explique qu'il refuse que la nature puisse continuer à faire l'objet d'un excès de réglementation déconnecté des réalités du terrain et qui paralyse nos territoires.
C'est joliment dit.
Il explique aussi, si nous sommes élus, nous serons attentifs à assurer un juste rééquilibrage des subventions qui ont beaucoup profité ces dernières années à des écologistes dogmatiques et guidés par des motifs purement idéologiques.
Je crois qu'il aime bien les chasseurs, en fait.
Ouais. Et ben, en tout cas, il y a plus de 510 associations. Quand je suis allée voir tout à l'heure, on en était là au niveau du chiffre. Des associations, alors c'est randonneurs, vététistes, des alpinistes, des kayakistes, des associations d'équitation, des gîtes ruraux, des associations naturalistes, environnementales, qui ont signé l'appel pour le dimanche sans chasse. C'est dur à dire, essayez chez vous. L'appel pour le dimanche sans chasse. Je n'y arriverai pas. Donc, ils ont monté un collectif du même nom que je vais du coup pas parodier. Effectivement, je n'y arriverai pas. Chez moi, j'y arrive. Bien important. Voilà, où ils expliquent que c'est le seul loisir qui blesse et tue fréquemment des personnes ni pratiquantes ni spectatrices. C'est ce qu'ils expliquent dans leur communiqué, ce qui est vrai. Hein, bah oui, puisque vous pouvez vous faire mal en faisant de la moto cross voilà, sportive, bah, vous allez vous faire mal à vous. Hein. Bon, voilà. Alors en plus, ils expliquent que ça restreint l'activité de tous les autres qui ont envie de faire un loisir, puisque c'est quand même pas très agréable en période de chasse d'avoir des coups de feu à côté de soi, en sachant qu'en plus on peut être blessé.
Ou tué.
Ou tué. En plus maintenant, la chasse avec fusil, c'est plus de 6 mois, mais de 9 à 10 mois par an, selon les régions. Et selon les animaux chassés. Donc en fait, ça veut dire que c'est toute l'année.
Ça,
hein.
Ça s'est étendu, ouais.
Donc tous les autres doivent rester chez eux. Que donc la chasse est un loisir à caractère exclusif. Il rappelle que les chasseurs représentent désormais simplement 1,6% de la population, c'est-à-dire pas grand-chose, et que pourtant ils sont toujours autant soutenus par les politiques. Et qu'ils aimeraient donc profiter tous et toutes du dimanche à la campagne et à la montagne sans chasseurs. Et se prendre du plomb dans le cul. Voilà, donc c'est une campagne hein, que vous pouvez tous et toutes rejoindre, vous associer. Il y a plein d'organisations au niveau local qui en font partie. La Ligue pour la protection des oiseaux, la FRAPNA par exemple, hein, qui sont des associations de la protection de la nature. Mais voilà, il y a même des... Oui, je vous disais, vous faites du trail, ben, il y a des associations qui sont sur cette question-là. Voilà, parce que c'est vrai que tous les ans, j'avais des chiffres que je vais vous donner. Alors, ces 15 dernières années, il y a entre 130 et 200 accidents de chasse.
Ouais. C'est énorme.
Chaque année, ouais. Entre 16 et 40 morts. J'ai pris les 15 dernières années, c'est oui, tu peux y aller. Pour la saison 2014-2015, il y a eu 122 accidents. 14 mortels.
C'est pas des chiffres anodins quand même.
60% ont lieu le dimanche. Voilà.
Alors, pour un dimanche sans chasse.
Pour un dimanche sans chasse, je n'arriverai pas. Définitivement, vous allez pouvoir vous moquer de moi encore la prochaine fois. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire pour terminer? Eh ben, vous savez quoi? Je pense qu'on va terminer tout de suite par une bonne nouvelle. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, je l'avais gardé pour la fin de ce Canu Info. C'est plutôt en général une info qu'on donne en début. Vous savez, quand on vous parle des barbares. Vous savez, hein, nous les barbares, on prend ça dans le sens moderne de sa signification. Et les barbares, chez nous, dans ce Canu Info du jeudi, c'est les assassins officiels, c'est ceux qui pratiquent la peine de mort d'État. Et ben, on avait une bonne nouvelle qui vient de Mongolie, puisque la Mongolie est devenue le 105e pays à abolir la peine de mort. Ouais, non, sérieusement, cool. Vous pouvez applaudir. Non, mais c'est une super nouvelle, surtout que on attendait hein, de la part de la Mongolie. Il faut dire, alors, je vais encore m'en voir avec les noms. Le ministre mongol de la Justice, monsieur Kichindembereel Temujin, je m'excuse vraiment, je prononcerai très mal, a déclaré « Il n'y a pas de hausse significative des crimes dans les pays où il n'y a pas de peine de mort. » Pour lui, voilà, c'est l'argument majeur, c'est que ça ne sert à rien. Il faut savoir que le président mongol, vous m'excuserez encore pour la prononciation, Monsieur Tsakyangjin Elbeck George, j'ai toujours du mal beaucoup avec son nom, c'est un abolitionniste. Ça, on le sait depuis le début. Il n'y a pas eu d'exécution depuis 2008 en Mongolie. Il a interrompu plusieurs fois des exécutions avec son arrivée au pouvoir en 2010. Hein, il a commué les peines en prison à vie. Voilà. Depuis le début, il se battait là-dessus. Comme partout, il y a eu des débats qui ont été longs, mais on en est arrivé à cette abolition de la peine de mort en Mongolie. C'est une chose qui a été saluée hier par les Nations Unies. Les Nations Unies, ben, ils ont eu bien raison. C'est une grande avancée.
C'est une excellente nouvelle.
Ouais, un pays de plus. Il en reste encore plein d'autres, malheureusement.
Ce qu'on peut juste dire, c'est que dans les débats, il y a eu quelque chose d'amusant, entre guillemets. Oui. C'est qu'il y a des gens qui disaient qu'il faudrait qu'on arrête de ressembler à la Chine.
C'est
quand même assez drôle comme argument.
Ouais, bah la Chine, les États-Unis d'Amérique, ouais. L'Arabie Saoudite.
C'est parce qu'ils sont près du Japon, du grand voisin.
Non, on peut y aller. Hein. Malheureusement, il y a encore trop de pays qui sont pourtant des pays dits démocratiques qui pratiquent la peine de mort. Je veux dire qu'il y a pas que des pays autoritaires qui pratiquent. Hein, les États-Unis d'Amérique est un pays qui pratique. À mon amant aussi. Ah oui, je crois qu'en Arabie Saoudite aussi, il y a eu encore une exécution cette semaine. Et alors, comme je vous le disais la dernière fois, c'est toujours difficile de savoir où on en est en Arabie Saoudite. L'ONG sur lequel j'ai regardé sur son site internet tout à l'heure parlait de 150e. Mais pour d'autres, on en était déjà à 152.
Elles sont souvent, en plus, dites à huis clos, comme ils disent. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas que la personne est exécutée. Donc, forcément, c'est difficile d'avoir les chiffres. Et puis, faut retenir une chose. Je connais une ONG qui dit c'est une tous les deux jours. C'est déjà terrible, de retenir une tous les deux jours.
Mais c'est un truc de dingue. Hein. Mais oui, c'est ça. Bah, de toute façon, 150, 152, ça change. Ça change beaucoup parce que c'est la vie des gens. Vous comptez le nombre de jours dans une année. Ouais, c'est assez effrayant. Mais c'est un peu comme le Texas, c'est très effrayant aussi. Mais c'est aussi les procédures du Japon où pendant des décennies, on a assassiné des gens en cachette sans même prévenir les familles qui ne savaient même pas que leur proche était mort. Mmh. Voilà, et puis des gens qui restent dans le couloir de la mort aussi pendant 10, 20, 30 ans, 40 ans, ça aussi, ça leur permet d'être en vie. Mmh. Mais malgré tout, c'est terrible.
C'est une sacrée torture, quoi.
C'est terrible. Bon bah merde, je vous ai bouffé la bonne nouvelle. Donc la Mongolie a aboli la peine de mort. C'est une superbe nouvelle. On aurait pu vous parler aussi de ce vote des députés aujourd'hui. Enfin c'était cette nuit, un truc dans le genre, qui ont donc voté plutôt à l'unanimité. Hein. Il paraît que c'est bien, que c'est dans le cadre de la COP21 et le climat et tout ça. Ouais, si c'est vrai, tout le monde dit ça. Ils ont voté la proposition de loi du député Guillaume Garot, PS, pour la fin du gaspillage alimentaire. Donc ça touche à la fois les supermarchés qui ne pourront plus jeter ou détruire avec de la javel, par exemple, leurs produits qu'ils ne mettent plus en rayon. Ça touche aussi les industriels de l'agroalimentaire qui vont devoir arrêter de jeter aussi une partie de leurs produits. Donc il y a des modalités de transformation de ces produits qui doivent être mis en place. Les supermarchés, eux, doivent mettre en place très rapidement des partenariats avec un certain nombre d'associations. Bon, comment ça va se mettre en place Très franchement, moi je suis sceptique, je ne vais pas vous le cacher.
En Belgique, ça cafouille pas mal. Hein. Ouais. Ils étaient précurseurs et la grande distribution freine des cas de fer, notamment le groupe Carrefour qui est montré du doigt en Belgique.
Et puis, de toute façon, c'est très bien qu'il faut changer les choses avant, autrement. En plus, c'est des mesurettes. Certes, le gaspillage alimentaire est très important, mais on sait que. Parce qu'on parle souvent de nous. C'est-à-dire, toi, Fabien, tu es très vilain parce que tu jettes de la nourriture chaque année. Par contre, il faut aller voir dans les champs industriels le nombre d'abricots qui peuvent être jetés chaque année, le nombre de choux qui peuvent être jetés, de patates, de carottes. L'industrie jette. On peut aussi parler de tous ces produits MDD qui sont fabriqués par souvent des PME au niveau local et qui, ces PME ne respectent pas le délai de livraison, les chargements sont refusés ces chargements devaient être détruits jusqu'à présent. Et donc là aussi, normalement, ces chargements ne devront plus être détruits et devront être recycler.
Ce qui est quand même que du bon sens. Hein,
ah, bah.
Être clair. C'est, non, mais je veux dire, on touche même pas quelque chose qui est révolutionnaire. Quoi. C'est
la seule chose que de bien, moi, que je vois là-dedans, c'est que tous ceux et toutes celles qui, chaque année, vont glaner dans les poubelles de supermarché, qui parfois se font taper dessus, se sont fait insulter, hein, ça arrive fréquemment, et ben là, se sentiront peut-être un peu protégés.
C'est déjà ça. Quoi.
Pourront peut-être sortir un jour des craies avec un papier en disant regarde, gars, j'ai le droit. En tout cas, tu peux pas m'en empêcher et tu vas devoir me laisser tranquille. Bon.
C'est le tout petit plus, quoi.
Voilà. Et bien, on va faire un petit agenda très court.
Oui.
Je te laisse faire. Tu avais.
Alors, j'ai deux petites nouvelles. Enfin, deux nouvelles, pourquoi petites ?
Ouais, parce que c'est bien. Hein.
Alors, la première, c'est que dans le cadre de l'Antifa Fest qui se tient ce week-end, les 12 et 13, Radio Canu a un goûter sonore qui se tiendra à 16h30 à la Griffe le 12. Voilà, alors un goûter sonore. Vous entendez le jingle sûrement sur les ondes. Donc, voilà, on vient, on goûte et puis vous entendez des trucs de Radio Canu. Puis vous pouvez rencontrer des animatrices et animateurs. Voilà. Donc, 16h30 à la Griffe, samedi 12. Et sinon, les 12 et 13, cette fois-ci, c'est samedi et dimanche, se tient à... Alors, je ne sais pas que je me trompe, à la Rotonde de l'INSA, salle René Char. Il se tient donc en fait une pièce qui s'appelle Jean Mélier, athée, profession curé, et qui sera suivie ensuite d'une discussion avec Serge Desruette qui a écrit un livre sur Jean Mélier. Alors Jean Mélier, c'était un des premiers penseurs de l'anticléricalisme et de l'athéisme en Europe, et c'est un des premiers qui en a fait une, comment on dit, une... Ah, j'ai perdu les mémos, c'était bien parti. Hein. Une théorie aboutie. Voilà, j'ai retrouvé mes mots. Voilà. Donc il y a une pièce qui vous met en scène Jean Mélier et qui parle avec un de ses amis. Et ensuite donc un petit entretien avec Serge Desruette qui est professeur des idées en Belgique. Et pour terminer, un apéro pour continuer à parler de tout ça. Donc c'est samedi 12, et dimanche 13 à la Rotonde de l'INSA à 14h30 précise. Et si vous voulez réserver, je vais donner le numéro. C'est au 06 69 94 49 90.
Je répète, 06 69 94 49 90.
Voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc il vaut mieux réserver.
J'ai pas réservé encore ma place. Il faut que je fasse très vite. Alors.
Voilà.
Bon, écoute, j'ai bien aimé cette infidélité, Fabien. Je dois te le dire. Ce fut très agréable. Si Laurent vous a manqué, sachez, je fais un peu de délation, que vous pouvez le retrouver demain, vendredi, non pas dans un Canu Info.
Ah non.
Mais de 20h à 22h dans Noise Pollution, l'émission qui t'arrache les oreilles avec du métal dedans. Oui, puisque tous les vendredis, si vous ne le saviez pas encore, Laurent m'est infidèle le vendredi avec Raph. Oui. Donc je me suis vengée un petit peu aujourd'hui. J'ai pris Fabien pour moi.
Ces histoires de Padawan en
France. Ah là là, ils sont bizarres dans cette émission des fois un petit peu. Écoutez, nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Laurent devrait revenir, à moins que il ait décidé que finalement il avait encore envie d'aller voir du métal, mais ça m'étonnerait. Et puis on va vous laisser tout de suite avec la petite cuillère et on vous souhaite une très très bonne soirée.
Bonne soirée, quelques bandes continuent et la petite cuillère arrive.
Ciao.